France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Auteur, compositeur, interprète, mais aussi peintre, photographe et auteur de nombreux livres, romans et carnets de voyage. Depuis « Animal, on est mal », le titre qui en 1968 le fit connaître, ce sont très souvent les mots « mystère »,« secret », »,« énigme » qui reviennent à propos de Gérard Manset. À quoi cela tient-il ? À sa manière de voyager en solitaire, à la marge du show business, de ne pas se produire sur scène, de n'être apparu que très rarement à la télévision et d'avoir été photographié à peine davantage ? Certainement. Mais peut-être aussi à ses chansons, à ses textes et à quelques albums cultes, comme on ne disait pas encore en 1970, quand sortait « La mort d'Orion ». Invité en 1985 de l'émission Diagonale pour son nouveau disque « Prisonnier de l'inutile », Gérard Manset, interrogé par Jacques Erwan et Marc Legras, présentait ce 12e album et livrait sa version du mythe Manset en revenant sur les mots qui collaient depuis toujours à sa peau de chanteur. Diagonale, spécial Gérard Manset, diffusé la première fois le 24 septembre 1985 sur France Culture.
Diagonale, mardi 24 septembre.
Je n'ai rien à raconter.
Spécial Gérard Manset.
Animal, on est mal.
France Culture, Diagonale,
Gérard Manset, en direct.
Septembre, 21h30. Bonsoir, c'est Diagonale.
Seul un chien peut-être vit tranquille. Nous sommes prisonniers de l'inutile. Nous sommes prisonniers des liens qui nous. nous attache et nous souffrons dans notre cœur comme une tache. Quelque chose qui grandit et qui se cache. Quelques croix sont plantées sur le chemin que les bourreaux montrent de la main, disant de l'autre monde que reste-t-il, reste-t-il. Nous sommes prisonniers de l'inutile. Au-delà de nous, dans le ciel plomb, y a-t-il un Dieu, quelqu'un, nous l'appelons, nous oublier, comment le pourrait-il. Nous sommes prisonniers de l'inutile. Nous sommes prisonniers. Les liens nous attachent et nous souffrons dans notre cœur. Quelque chose qui grandit et qui se cache.
Prisonnier de l'inutile, l'album vient de paraître. Gérard Manset est avec nous dans Diagonale et on en est très heureux.
Gérard Manset, à défaut de biographie, il y a une légende, Gérard Manset, au terme de laquelle vous seriez, je cite, secret, mystérieux, énigmatique. Il y aurait même un mythe, Manset. Alors Gérard Manset, secret ?
Oui, secret, oui.
Mystérieux ?
Il y a beaucoup de secrets, hein. Il n'y a pas que des secrets, mais il y a beaucoup de secrets.
Mais êtes-vous secret ?
Oui, il y a une grande part de secret, oui.
Mystérieux.
Je ne sais pas, peut-être le mystère contenant le secret, ce n'est pas évident, mais je crois que c'est plutôt secret que mystérieux. finalement, c'est très simple. Le secret, c'est une position personnelle de ne pas divulguer certaines choses, mais ces choses en elles-mêmes sont très simples. Il n'y a rien de mystérieux dedans, en fait. Voilà.
Énigmatique ?
Alors là, il faudrait me préciser le sens.
Êtes-vous un être à énigme ?
Je crois pas. Je crois que tout est clair. Simplement, ça prend souvent énormément de temps à développer le pourquoi et le comment. Mais enfin, bon, s'il y avait le temps de le développer, ce serait très clair.
On peut développer.
Je crois pas. Là. Ça dépend quoi.
Hein. Gérard Mincet, énigmatique, pourquoi pas. Très souvent, sur les pochettes de disques, bien sûr, on en a parlé. Vous apparaissez peu, vous apparaissez dans le flou, vous apparaissez avec le regard caché, par exemple.
Oui, mais... oui, enfin bon.
C'était un choix.
Oui, bien sûr.
Il y a même une espèce de progression, peut-être, à l'intérieur de ce que vous livrez de vous-même.
Non, non, disons qu'il y a c'est pas des carcans, mais des conditions assez... Enfin, vous savez, c'est bon de se mettre dans des circonstances quelquefois très pénibles. Et il y a un petit jeu personnel dans le fait de reculer quelquefois les limites de la difficulté. Donc, c'est vrai que c'est pas que ça va en s'aggravant le fait de ne pas apparaître, mais c'est un des paramètres dont je tiens compte à chaque nouvelle pochette. Oui, c'est vrai.
Gérard Mincet, le seul film qui vous soit consacré, L'Atelier du Crabe, est un film que vous avez réalisé vous-même. Pourquoi ce soin ? Avez-vous peur d'être trahi ?
C'est que personne ne s'est présenté pour en faire un.
Vous êtes vraiment sûr de ça ?
Ah oui, absolument. Non, vous savez, dans la légende en question, il y a une part de... Comment je pourrais dire de stratégie qui fait qu'on remplace le vide par quelque chose qui semble cohérent. Mais il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, personne ne se présente pour réaliser un film. Hein.
Gérard Mincet, il existe un clip de votre chanson, La Mer Rouge. Est-ce que vous avez suivi la mise en image sur vos mots, sur vos musiques ?
Non, l'information est mauvaise. Il n'y a pas de clip sur La Mer Rouge.
On l'avait pourtant publié. On l'avait écrit.
Oui, bah c'est une erreur. Je ne sais pas qui l'a écrit.
Alors, pourquoi pas de clip sur les nouveaux chansons ?
Pourquoi pas de clip ? Parce que, justement, je ne peux pas dire. Il n'y a pas de réalisateur qui se présente. La question n'est pas là, mais... Peut-être un choix personnel. En fait, j'ai toujours voulu que ce soit dans la musique ou que ce soit sur une image qu'on pourrait mettre sur la musique que je fais, que le produit m'échappe. Contrairement à ce qu'on croit, on croit que je veux absolument tout contrôler, m'occuper de tout. C'est absolument faux, mais il se trouve que... je ne sais pas quelle malédiction fait que les choses me reviennent toujours dans les mains et comme je n'ai pas envie de les assumer, je m'arrange quelquefois pour faire en sorte qu'elles n'aboutissent pas. C'est souvent inconscient. Non, c'est pas inconscient d'ailleurs, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est absolument inéluctable. J'en suis souvent amené à ces circonstances. Mais alors, en ce qui concerne le clip, bon, l'année dernière sur Lumia, il y a eu 2-3 projets. Mais il y a d'autres raisons techniques et pratiques qui sont encore longues à développer. Mais si je voulais dire en une phrase, ce titre Lumière faisait 11 minutes, hein, quelque chose comme ça. Et donc je voulais absolument avoir la garantie, si je tournais un clip, qu'il serait passé, enfin qu'il serait passable. Et donc je voulais avoir des contrats, je voulais que ce soit contractuel. Et on ne signe pas de contrat, on ne signait pas de contrat. Enfin, c'était très très difficile d'avoir des engagements à cette époque-là, là-dessus. Donc c'est tout, je ne veux pas faire travailler des gens sur du matériel sans avoir de résultats... Et puis, ben voilà, c'est tout.
Vous avez au moins un principe, celui du discours médian. Qu'entendez-vous par là ?
Non, j'aimerais l'avoir. Hein. Ça ne veut pas dire que je l'ai toujours. C'est quelque chose que j'essaye d'avoir. Mais malheureusement, je ne m'en porte pas d'ailleurs, parce que je suis assez distant par rapport à ce genre de choses. Mais je ne sais pas si je suis toujours effectivement dans le juste milieu. Mais ce n'est pas mon propos d'être dans le juste milieu. À froid, oui, chez moi. Ça, j'ai une vision médiane des choses. En ce qui concerne le choix que j'ai à faire ou les choix que j'ai à faire par rapport à ma carrière, entre guillemets, hein, bon, puisque je suis seul, effectivement, à décider, je l'ai voulu comme ça, et puis il n'y a rien à mettre à la place. Mais dans une conversation comme celle-ci, ou si on me pose une question et que j'ai à y répondre, je suis comme tout le monde. Je veux dire, je n'ai pas le recul toujours nécessaire et il m'arrive de dire n'importe quoi. Hein, mais ça m'amuse aussi. Je veux dire, caprice d'artiste, on a le droit de...
Ce discours médian, alors, c'est une attitude un peu idéale ?
Je sais pas, idéale, je sais pas. Si on arrive à le manœuvrer, à le manipuler, à le domestiquer, je ne sais pas si on est à ce moment-là assez lucide pour se rendre compte s'il est idéal ou pas. Donc, j'ai pas d'opinion. Non, j'ai pas d'opinion.
Qu'est-ce qui vous avait poussé peut-être ?
C'est une sécurité, peut-être, plus qu'autre chose, c'est tout.
Qu'est-ce qui vous avait poussé à tendre quand même vers ce discours médian ou cette attitude médiane ?
Alors, je ne l'ai jamais eu. Hein. C'est strictement une notion bouddhiste. C'est-à-dire que, bon, un jour, j'ai mis mon nez dans l'enseignement du Bouddha, il y a pas très longtemps, et j'ai découvert, effectivement, ce chemin du juste milieu que je ne connaissais pas, et qui est la seule chose, dans toutes les pratiques bouddhistes, que je n'avais jamais pratiquées. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un d'assez emporté, d'assez exigeant, de très exigeant, de très têtu, de très tenace. Bon, et ce sont des choses que j'ai quand même mis au rancard depuis un certain temps. Hein.
Le sentier du milieu donne vision et connaissance, conduit au calme, à la vision profonde, à l'éveil, au nirvana. Il comporte 8 divisions. Pensée juste, parole juste, action juste, moyen d'existence juste, effort juste, attention juste, concentration juste, qui visent à favoriser le développement et la perfection des 3 éléments essentiels de l'entraînement et de la discipline bouddhiste. Premièrement, conduite éthique. Deuxièmement, discipline mentale. Et troisièmement, sagesse. La parole juste signifie l'abstention, premièrement, du mensonge. Deuxièmement, de la médisance, de la calomnie et de toute parole susceptible de causer la haine, l'inimitié, la désunion, la disharmonie entre individus ou groupes de personnes. Troisièmement, de tout langage dur, brutal, impoli, malveillant ou injurieux. Et enfin, quatrièmement, de bavardage oiseux, futile, vain et sot.
Gérard Mincé, dans quelles circonstances êtes-vous tombé sur ce texte, sur cette pensée ?
Pas exactement celui-ci, mais enfin, à quelques détails près... Il y ressemble. C'est son frère jumeau. Ce qui est dommage, c'est qu'on se soit arrêté à la parole juste et qu'on n'ait pas développé les autres, notamment ce qui concernait les moyens d'existence juste, parce que le showbiz, enfin le spectacle en particulier, en est écarté de façon catégorique. Bon, c'est tout, il faut vivre avec. Plus très longtemps, mais...
Pourquoi dites-vous plus très longtemps ?
Bah parce que quand même, 12e album, Prisonnier de l'inutile, ça permet... En quelque sorte, une halte sage et recueillie.
Gérard Mincé, où vous arrêterez-vous ?
Ça, je ne sais pas.
Géographiquement ?
J'ai pas d'idée là-dessus. Il y a quelques points de chute là que je peux avoir, oui, mais m'arrêter, je ne sais pas trop. J'ai pas tellement envie de m'arrêter particulièrement. Hein.
Prisonnier de l'inutile, c'est une formulation. Un peu provocatrice.
Oui.
C'est tout.
C'est tout.
Vous avez le goût de la provocation, tout de même.
Non, si peu. C'est vraiment... Non, sérieusement, je veux dire, j'en mesure chaque jour les limites. Ça m'amuse parce qu'on a besoin de miroirs, d'images qui reviennent. On a besoin de murs quand on envoie la balle. Et bon, c'est tout. Donc, en ce sens, il y a quelque part des provocations, ne serait-ce que pour voir la réaction de mes proches ou des gens que j'aime bien ou de certaines personnes que j'estime. Et puis, c'est tout. Mais ça ne va pas plus loin. Ce n'est pas une provocation à l'échelle d'un public ou de... Non.
L'humour aussi.
L'humour, oui, ça peut arriver.
Non, parce qu'il y a des légendes tenaces qu'il est parfois bon d'essayer de contribuer à démolir, tout de même. Non ?
Écoutez, oui. Je pense être entouré. Je veux dire, la plupart de mes amis ont beaucoup d'humour, oui.
Ici et là, dans votre œuvre, on peut déceler un certain mysticisme. Quelles sont les racines de ce mysticisme et où vous mène-t-il ?
Bah, écoutez, je crois que c'est des questions... tout à fait normal et il n'y a rien d'autre à répondre que des choses tout à fait banales. Je pense qu'on est tous plus ou moins mystiques. c'est une des cordes de l'arc d'un artiste, de tout artiste. Donc, de temps en temps, on tire sur celle-là, c'est normal. Hein, je veux dire, on est quand même quelque part des malades mentaux. Et dans les maladies mentales ou dans les perversions mentales, il y a ce fait de croire, enfin, d'avoir tous ces problèmes relatifs au mysticisme. Et...
L'interrogation fondamentale ?
Pas toujours, parce que, justement, le bouddhisme m'a au moins, ou tout au moins l'enseignement du Bouddha m'aura au moins apporté ce calme quelque part, cette petite mare de quiétude qui fait qu'il y a des questions qui sont absolument défendues. S'il y a bien quelque chose de défendu dans le bouddhisme, il y a très peu de choses d'interdites, mais enfin, tout au moins peu recommandé, c'est ce genre de questions. Donc mystique, oui, mais pas sur le fait des questions fondamentales de, hein, qui sommes-nous, allons-nous, d'où venons-nous, hein.
Faudra bien qu'on pense un jour aux enfants qui poussent dans les tours, sur les trottoirs, sous les néons, ceux qu'on ramasse dans les cartons. Où sont les vastes terrains vagues, tous tes silences, les murs de briques, les tas de sable, mon enfance. Les enfants nus, visage de charbon, suivant les sentiers dans la grisaille, maison de France, j'y pense maintenant, puisque ça n'a plus cours, que seuls les chiens restent au fond des cours, et que les écoliers, pareils aux écolières, on leur met le collier. Il faudra bien qu'on pense un jour aux enfants qui poussent dans les tours, sur les trottoirs, sous les néons, ceux qu'on ramasse dans les cartons. Dans les vastes terrains vagues, tous tes silences, les murs de briques, les tas de sable, de mon enfance, les enfants du visage, le charbon suivant les sentiers dans la grisaille, maison de France, j'y pense maintenant, puisque ça n'a plus cours, plus d'importance, qu'on est devenu sourd, que les écoliers, pareils aux écolières, on leur met le collier. Qu'on est devenu sourd, et que les écoliers, pareils aux écolières, n'ont plus la moindre chance que l'on avait hier, et que les écoliers, pareils aux écolières, n'ont plus la moindre chance
Gérard Manset, cette chanson est-elle une bouteille à la mer jetée pour n'importe qui ou bien y a-t-il un message, disons, social, comme le disait il y a quelques années ?
Il n'y a pas de message social, mais non, il y a, comment je pourrais dire, une constatation de quelque chose de perdu. Ben, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois que je la fais. Mais, et puis il y a une vision passéiste, enfin dans ma tête, il y avait une image sur laquelle j'ai construit... une phrase ou deux qui me sont venues. Donc là, il y a un travail tout à fait conventionnel d'auteur-compositeur. Depuis un certain temps, ça fait quand même donc 12 albums, alors pour ne pas quelquefois retomber dans les mêmes principes de construction de chansons, il m'arrive maintenant de saisir la banalité au passage, si je puis m'exprimer ainsi, et donc d'essayer de rester dans quelque chose de tout à fait conventionnel, au moins une fois de temps en temps. Donc c'est une chanson tout à fait conventionnelle.
Quels sont vos bouts de paradis perdus à vous ?
À quel point de vue cérébral ou enfin cérébraux ou physique
parmi ce que vous avez vécu ressenti puis il y a quelque chose qui a disparu dans cette chanson, il y a des choses qui relèvent comme ça de ce qu'on appelle les petits paradis perdus, peut-être qui sont dans des bouts de notre mémoire.
Bah, vous savez, moi je suis mon signe c'est Lion et c'est ascendant Cancer. Donc, ascendant Cancer, c'est rattaché à tout le monde de l'enfance, à tout le domaine de l'enfance. Donc, il est évident que l'enfance en général, c'était le thème de Lumière l'année dernière. L'enfance en général, pour moi, est un paradis perdu, bien évidemment.
Dans vos musiques, le rythme et le son constituent-ils autant de messages et lesquels ?
Non, il n'y a pas de message particulier. Hein. J'ai jamais été porteur d'un message, quel qu'il soit. Au contraire, je fais même très attention quelquefois à ce qu'il n'y en ait pas. Et je, quelquefois, il m'en vient, comme tout le monde, et involontairement même, je veux dire, mais je pourrais penser que quelque chose tendrait à signifier ou à faire croire qu'il y aurait un message. Alors, quelquefois, même, je brouille les pistes. C'est beaucoup dire, mais je sabote le message quand je le vois trop évident. Message. C'est d'ailleurs le cas, on disait là, les enfants des tours, il y a un sabotage quelque part, puisque... Si on voulait vraiment prendre le texte au pied de la lettre, il semble quelquefois vouloir dire le contraire à un certain moment de ce qu'il disait au début, enfin, et vice-versa. Parce qu'il y a des problèmes temporels dedans. C'est-à-dire que certaines phrases... Enfin, moi seul connais les clés, mais disons que dans ma tête, au moment de les construire, certaines phrases me sont venues où j'étais à une période donnée et puis d'autres à une autre période. Donc il y a une grille à poser pour le voir d'une façon intelligible. Voilà, donc message non jamais.
C'est là où on retrouve l'énigme.
Oui, c'est vrai. Que j'inclus, non, que moi je sois un personnage à énigme, non, mais que je fabrique certaines énigmes, oui.
Pas de message ou peut-être un seul message. Un jour vous avez dit que votre seul message était de rigueur et d'honnêteté. Est-ce que vous persistez ici ?
Oui, mais ça c'est pas un message, ça c'est une attitude, c'est vrai.
Il vous est arrivé de vous définir, j'aime beaucoup cette phrase, je cite, comme un petit couturier français dans sa petite échoppe.
Oui, c'est vrai.
Est-ce à votre goût du travail en studio que vous faisiez allusion ?
Non, c'est pour remettre les pendules à l'heure, parce qu'on a vite tendance à se prendre pour autre chose qu'un petit couturier dans sa petite échoppe. Et donc, il faut toujours se rappeler à l'ordre, c'est tout.
Lorsque vous avez travaillé sur ce 12e album, est-ce que vous aviez l'impression d'aller à l'échoppe ? Comment vous l'avez préparé ? Bon, le studio, tout ça.
Non, mais enfin bon, aller à l'échoppe, jamais j'ai eu cette impression-là. Donc quand je dis un petit couturier dans sa petite échoppe, c'est parce qu'il y a quand même un côté tout à fait artisanal dans la façon de terminer les choses, c'est-à-dire les mettre en forme. Hein. En ce sens, il y a couture. Mais... Heureusement, je n'arrive à continuer à vivre que par l'inspiration. J'ai ce miracle, enfin, je suis né avec ça. Je produis, je fabrique des choses complètement irrationnelles qui me viennent dans la tête, que j'entends venant d'ailleurs. Bon, et puis c'est tout. Donc, c'est l'inspiration à l'état pur. Alors, ces choses-là me m'obligent à continuer. Mais après, c'est vrai qu'il faut quelquefois les mettre en forme... les rendre, je dis pas comestibles, hein, parce que je ne change jamais rien, je ne modèle jamais rien pour que ce soit intelligible. Quand je dis les mettre en forme, ça veut dire ne serait-ce que déjà commander des musiciens, faire des séances, des sessions et remplir une bande, c'est quelque chose de tout à fait matériel. Et donc c'est une couture quelque part.
Vous êtes un musicien autodidacte ?
Oui, comme la plupart des musiciens, tout au moins aujourd'hui.
Pourtant, vous jouez souvent de plusieurs instruments ?
Non, enfin, ça fait longtemps que je ne joue plus de...
Mais ça a été le cas.
Ça a été le cas, oui.
Alors pour ce dernier
album... Voyant les résultats, j'ai vite pris quelqu'un. Non, j'exagère, mais...
Oui, vous exagérez.
Pour ce dernier album, précisément, vous avez fait appel à des musiciens, et même d'ailleurs à un flûtiste fantôme, parce qu'il y a une flûte sur le disque, mais on ne trouve pas le nom du musicien qui joue de la flûte.
Oui.
Comment vous, le solitaire, avez-vous fait pour vous entendre et fonctionner avec eux pour ce travail?
D'abord, je les connais depuis très longtemps, ça fait au moins 6 ou 7 albums, en ce qui concerne... Il y avait un guitariste que j'ai eu pendant longtemps qui s'appelle David Woodhill, qui est un Anglais, qui est parti vivre aux États-Unis. Donc il n'est pas, il était dans Lumière et il n'est pas dans Prisonnier inutile. Et c'est un Américain qui l'a remplacé, qui est très bon d'ailleurs, qui s'appelle Breslin, et que je ne connaissais pas, et qui joue avec moi. On a fait en direct là, Les Enfants des Tours, donc il y a 2 guitares. Et puis bah, les autres, il y a Marc Perru, il y a. Pératonnerre, il y a Bunny comme batteur depuis très longtemps, puis il y a un bassiste, Didier Battard, qui est là depuis Le Voyage en solitaire.
Vous pouvez nous révéler le nom du flûtiste fantôme?
Ah non, ça je ne peux pas vous le dire, parce qu'il est passé tellement vite dans le studio que... Non, tout ce que je sais, c'est qu'il y en a 2 ou 3 avec lesquels je travaille habituellement. J'ai dû, je peux être à peu près catégorique là-dessus, j'ai dû tout faire... pour retrouver le flûtiste qui avait joué sur Orion, sur un titre qui s'appelait Salomon l'Ermite, parce que vraiment, c'est une des, pour moi, un grand moment, je m'en souviendrai toujours. Mais alors, il se peut que ce soit lui. Maintenant, vous dire le nom, je ne sais pas, parce que j'ai travaillé longtemps avec un autre musicien qui s'appelle Mam, qui fait les cuivres, les sax et tout ça, et qui donc, théoriquement, fait flûte aussi. Je ne me souviens pas s'il a fait des flûtes. Mais là, ce n'est pas lui, je sais que ce n'est pas lui. Vous dire le nom, je ne sais pas. Je regrette de ne pas l'avoir mis sur la pochette. Hein. Ça fait au moins 4 ou 5 personnes qui me font la réflexion. Je ne sais pas pourquoi il y a cette omission. Bon.
Gérard Mincet, vous avez une excellente mémoire. Vous êtes allé sur scène il y a quelques années, disons.
Aller où ça, pardon? Sur quelle scène? Voir quelqu'un sur scène?
Non, vous, sur scène. On dit de temps en temps, Mincet, il n'a jamais fait de scène. C'est pareil, vous avez fait un peu de scène.
Ah, je crois que vous vous trompez.
Avant Animal, on est mal, non? En groupe.
Là, vous avez vraiment... C'est encore passé... Comment?
Avec un groupe.
Ah non, non, avant Animal, on est mal. Non, mais il y a quelques années...
Oui, quand je dis il y a quelques années, 10 ans, c'était pour ne pas nous vieillir.
Il y a quelques dizaines d'années.
Bon, Animal, on est mal, c'était 1968.
Oui, non, mais c'était avant.
Oui, oui. Hein? Bon, alors, cette expérience de la scène, alors que vous étiez peut-être adolescent, ne vous a pas laissé de souvenirs impérissables?
Si, justement. Mais bien évidemment que ça m'a laissé des souvenirs impérissables. Et c'est pour ça qu'après, je n'ai pas pu remonter sur scène, parce que ne pouvant pas réunir à nouveau des conditions équivalentes.
Bon, aujourd'hui, beaucoup de temps s'est passé depuis cette expérience. Vous avez rencontré des tas de musiciens. N'êtes-vous pas tenté, au fond de vous, un peu de... peut-être de vous risquer de nouveau sur ce type d'expérience?
Vous savez, hein, à chaque sortie d'album, j'ai à nouveau des conversations comme ça, très pénibles, parce que... Non, parce que tout ce qui est professionnel, enfin, tout le côté professionnel, organisé, structuré, financier de la chose, ça peut se recréer. Hein, c'est pareil pour tout le monde, je veux dire. Mais ce dont vous parliez tout à l'heure, non. C'est-à-dire le petit groupe qui découvre la guitare, la batterie, le piano,
oui, bon,
et qui rôde à droite à gauche, ça, c'est terminé. Et il n'y a que ça qui m'intéressait, le reste ne m'intéresse pas.
Aujourd'hui, la scène ne vous tente pas du tout? Non.
Non, d'autant plus. Enfin, je ne peux pas dire non, parce que ce sera peut-être un de mes seuls regrets, ce sera de ne pas avoir quand même chanté sur scène la plupart des chansons que j'ai faites, parce qu'il y en a que j'aime et qui n'ont pas de. Enfin, qui auraient une existence sur scène intéressante, bon. Alors qu'elles sont mortes du jour où je les fais en disque, c'est terrible hein, pour un compositeur. Enfin, bon, il faut vivre avec. Et puis. Donc, ce sera un regret, la scène, mais. Quand je vois ce que ça devient pour d'autres artistes, il y a vraiment une boulimie du nombre de places, du nombre d'éclairages, du prix du spectacle et du nombre d'affiches. Ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, là, on a perdu le chemin du juste milieu, hein, en l'occurrence.
Ça, c'est pour des raisons philosophiques aussi que vous n'avez pas
envie de faire. Oui, j'aurais beaucoup de mal à vivre avec parce que, je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 10 ou 15 ans. On ne peut plus vivre en accord avec soi-même, si on veut rester, disons, dans des proportions normales par rapport justement à la philosophie qu'on a. Il faut aller au charbon comme tout le monde et faire plus fort que le voisin, faire plus cher, faire plus longtemps. Ça ne m'intéresse pas, ça.
C'est un combat?
Oui, mais ce combat ne m'intéresse pas. c'est réellement un combat de frime plus qu'autre chose, et il ne m'intéresse vraiment pas. Vendre 500 000 albums parce que j'aurais fait ce combat de frime au lieu d'en vendre 80 000 en disparaissant complètement, entre les deux situations, j'hésite pas. Maintenant, il est évident qu'il y en a une troisième qui serait de vendre 500 000 en disparaissant. Celle-là m'intéresse.
Chevelure des fenêtres fermées, les chambres d'asile. Papier des murs, des chambres, des hôtels moisis. Chevelure des rideaux déchirés, des néons tristes. Et plus rien d'autre pour te prouver que tu existes. Et plus rien d'autre pour te prouver que tu existes. Non, plus rien d'autre pour te prouver que tu existes. Pour un autre.
papier des murs, des chambres, des hôtels voisines. Chevelure immobile et chaude des longues nuits.
La chambre d'Asie, extrait du dernier album de Gérard Manset, publié vendredi dernier. Gérard Manset, voyager pour vous, c'est un art ?
Oui, bien sûr, un art martial, tiens, précisément.
En quoi est-ce un art martial ?
Ben, on ferme la parenthèse, on passe à autre chose, mais c'est un art martial.
Lorsque vous voyagez, il vous arrive de voyager avec un appareil photo ?
Oui.
Souvent ?
Oui, oui.
Ouais.
Et la photo, c'est martial aussi, dans ces circonstances.
Sur l'appareil photo, qu'essayez-vous de fixer que la mémoire ne puisse retenir ?
Ah ben, d'abord, ma mémoire, en l'occurrence, ne retient quasiment rien. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses que je suis obligé de mettre dans le boîtier. Et sur des sensibilités avec la plus grande définition possible. Sensibilité de pellicule, hein, je veux dire.
Ce goût de la photo, j'imagine que vous avez développé beaucoup de minutie. Il date dans votre histoire de quel moment ? C'est une découverte relativement récente ?
Non, j'en ai fait il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. J'en ai finalement pas fait assez tôt. Mais enfin, j'ai commencé quand j'étais aux Arts Déco. Et la raison, c'était que simplement, faire quelques photos, les développer, ça pouvait aider sur le plan graphique à retrouver certaines choses. Bon, c'est un raccourci, hein. Mais j'ai laissé tomber le boîtier, je ne sais pas pourquoi, pendant 10 ou 15 ans, je n'ai pas 10 ans, je ne sais pas. Bon, et puis il y a quand j'ai commencé vraiment à mettre le voyage avant le reste, enfin tout au moins à commencer à cocher les destinations les unes après les autres, que là j'ai pas pu faire autrement que de faire de la photo. C'est une des occupations, hein, écrire et faire de la photo.
Il vous est arrivé d'exposer ces photos. Qu'aviez-vous envie de partager avec celui qui passerait devant ?
C'est un petit égo comme ça, mais je veux dire, on voit souvent des expositions de photos. J'ai toujours trouvé la plupart des expositions de photos ridicules, la plupart. Mais enfin, c'est personnel, hein, comme attitude, c'est-à-dire n'y trouvant jamais ce que j'aurais cherché. C'est-à-dire un dépaysement, un voyage quelque part, trouvant des choses d'un esthétisme plus ou moins divagant, pas net et absolument inexplicable, enfin je veux dire indéfendable. Donc mon propos n'est pas dans l'esthétisme, je suis artiste peintre, là je peux défendre ce que je fais. Mais la photo, c'est à la portée, je veux dire, il suffit d'appuyer sur un bouton. Le reste, il y a des problèmes techniques que je connais, mais je veux dire, il y a déjà peu de photographes qui ont fait le tour de la technique, de la lumière. Et donc, il n'y a aucune, comment je pourrais dire, aucune revendication artistique dans le fait de faire de la photo pour moi et d'exposer certaines photos. Par contre, c'était quand même à l'encontre, justement, de la démarche de beaucoup de photographes qui s'imaginent y mettre quelque chose d'artistique. Bon. Donc j'ai simplement mis en vrac, c'est une chose que j'avais en tête depuis longtemps, j'aime bien les heurts, j'aime bien opposer des choses, donc des photos sans destination à la limite, qui pour des raisons strictement de masse, de volume, de forme, de nuance ou de couleur, et de représentation figurative, hein, se mariaient, c'était quelquefois des couples, c'était quelquefois quatre ensemble. En fait, j'en ai fait des planches de six les unes à côté des autres, ça faisait un mur, qui était tout, je crois, en 1824. J'aime beaucoup la planche de contact, donc c'était en quelque sorte une très grande planche de contact, dont on aurait jeté quelques bavures et qui permettait de faire très rapidement un petit voyage sans connaître les destinations obligatoirement, enfin au niveau de l'œil, quoi.
Des merveilles, et quand tu t'endors, la lampe allumée et l'or de nos corps, le drap grand ouvert, cascades et rivières, chevaux sur les plages, sable sous les pieds et lagons bleutés. Les l'esprit des morveilles qui frappe à la porte, et toi allongé dans ton demi-sommeil, et l'or de leur corps partout t'accompagne, quand glisse le bagne, couleur des montagnes, du sable et de l'eau. Que sommes-nous? Où allons-nous? Joselle jaune sur fond de montagne et sentier violet, la femme à la fleur, quand te maries-tu dans la grande cabane qu'il a fait construire à Ivaroa, là où il mourut.
Et l'or de leur corps. Il y avait une clé qu'il aurait peut-être fallu donner avant l'écoute de la chanson, Gérard Manset.
Oui, enfin bon, il se trouve que c'est quand même relatif à Gauguin, bien sûr, et à son séjour à Polynésie, mais notamment certains morceaux du texte sont quand même parmi les toiles connues, enfin, sont des titres de toiles connues de Gauguin. Donc le et l'or de leur corps, qui est au musée du Jeu de Paume, et puis il y en a d'autres. D'où venons-nous, que sommes-nous, c'est sa dernière grande toile. Et puis il y en a d'autres, hein, La femme à la fleur. Bon, voilà.
Bon, alors, Gérard Manset, auteur, compositeur, interprète, photographe, peintre, vous y faisiez allusion avant que nous écoutions cette chanson. Je voudrais savoir quelle est la part que représente la peinture dans votre activité dans, créatrice, disons.
Ben, pas énorme, parce que j'ai quand même... je me suis, disons, embarqué dans la musique il y a pas mal de temps, et c'est quand même quelque chose qui vous sabote et qui vous salit la tête, donc... c'est très difficile après de retomber dans l'état de grâce, d'être, comment je pourrais dire, assez propre pour peindre. Et il y a eu une ou deux périodes où je me suis remis à peindre. Et là je vais commencer à essayer d'oublier la musique pour réapprendre la peinture, même pour me retrouver dans cet état virginal où on peut se permettre de voir les couleurs et les formes et d'avoir des rapports normaux avec sa toile.
Qui vous salit la tête, la musique, disiez-vous, état virginal pour la peinture. Vous pouvez développer ?
Ben non.
En quoi la musique salit la tête ?
Non, mais la musique en elle-même, peut-être pas, mais disons que la musique fait partie, c'est le seul de ces trois arts où il est nécessaire de passer par d'autres, disons, pour la véhiculer, enfin pour la mettre dans le commerce et pour la faire connaître. Un écrivain peut se contenter d'écrire son manuscrit, de le donner à lire, et puis à la limite de corriger les épreuves, et puis c'est tout. Il n'y a pas de problème de médias, enfin il n'y en avait pas, mais libre à ceux qui veulent maintenant de les utiliser, mais c'est encore pas indispensable ni nécessaire. Bon, la peinture, jusqu'au moment de faire pénétrer quelqu'un dans son atelier, on est seul, on peut être seul. Donc il y a quand même un côté de concentration, de réflexion, d'analyse tout à fait privilégié. En ce sens, c'est aussi martial. À l'inverse, la musique, l'inspiration ou la composition d'une chanson... Bon, d'abord, là, en plus, on n'est pas dans la musique, on est dans la variété, on est dans la chanson, donc on est à cheval entre les deux. Donc on est plus près d'une petite poésie ou d'une petite littérature, quelquefois d'une grande poésie, hein, mais je veux dire d'une certaine forme de littérature musicale, quelque part, que de la musique, proprement dite. Donc... une fois qu'on a composé sa petite chanson ou qu'elle vous est venue ou son texte et lors de leur corps là, faut-il encore la réaliser? Et là, il y a problème de communication avec les autres musiciens, studios, même quand comme moi on arrive plus ou moins à tenir tous les aspects de front et les maîtriser étant polyvalent comme technicien et comme praticien simplement. Eh bien, ça pose quand même tous les problèmes de contact et de humain et de temps et de planning. Et ça salit la tête.
Lorsque vous parlez de création, vous soulignez cet état de grâce nécessaire à partir duquel vont venir les sensations. Est-ce que ça n'est pas quelque chose d'assez rimbaldien comme attitude, celui d'atteindre ces sensations, de les provoquer peut-être?
Écoutez, alors là, vous vous adressez à quasiment un ignare. Donc, c'est peut-être rimbaldien, je n'en sais rien.
Le dérèglement de tous les sens, non?
Je ne connais pas.
Rimbaud faisait partie de vos lectures?
Mais dérèglement de tous les sens, là, je n'adhère pas.
Rimbaud a fait partie de vos lectures?
Non, justement, c'est pour ça que je dis, non, Rimbaud, je connais deux noms, je veux dire, comme Higelin, mais...
Oui, et que parfois, il vous arrive d'être gentiment provocateur. Gérard Manset, vous avez des projets?
Pour l'instant, le seul projet que j'ai, c'est d'essayer de me retenir d'enregistrer pendant un certain temps, c'est tout.
Pour peindre, entre autres?
Oui, notamment. Notamment.
C'est grand, on voit toujours du sable tout blanc. Mais le monde est fermé quand même. Dans un écran, on voit bouger les hommes, les femmes, les enfants. Dans un écran, quelqu'un joue là-bas, tire le manche vers le bas. Les choses vont et viennent, s'allument et s'éteignent, et sont heureuses et saignent interminablement sur cet écran, sur cet écran. Pas la moindre raison de vivre, qu'une raison d'exister. Pas l'avenir, pas le passé non plus. Mais d'une rive à l'autre, faut traverser. Jamais regarder par la vitre arrière, les lézards allongés sous le banc de pierre, les buffles ensablés le long des rivières. On peut dégager les cheveux en arrière. Mais on peut dégager les cheveux en arrière. Regardez-moi passer les ténèbres. Regardez-moi passer les ténèbres. Ténébreuses lumières. Regardez-moi passer les ténèbres. Regardez-moi passer les ténèbres. Ténébreuses lumières. Mauvais karma. Depuis 10 000 ans la trace. sont les routes, les routes effacées, que sont devenues toutes nos pensées. Tout le monde va sans doute se briser, que sont devenues toutes nos vies passées, les marches sur lesquelles on a tous dansé, nos actes, nos gestes, nos pensées, dans la peau de qui sont enfoncés dans la peau qui sont enfoncés. Regardez-moi passer les ténèbres, regardez-moi passer les ténèbres, ténèbres et lumières. Regardez-moi passer les ténèbres, regardez-moi passer les ténèbres, ténèbres et lumières.
Diagonale, c'est malheureusement déjà fini pour cette semaine. Merci Gérard Manset d'être venu à Diagonale. C'était votre première émission pour la sortie de cet album. Et au plaisir.
D'entendre Gérard Manset au micro de Marc Legras et Jacques Erwan dans un numéro de Diagonale. Première diffusion le 24 septembre 1985 sur France Culture.